vous êtes sur Radio Shalom.
Radio Shalom.
Et Rav David Abendanan est en ligne avec nous ce soir. Bonsoir Rav David Abendanan.
Bonsoir Bernard.
Un peu de halakha, quelques jours avant Pourim, ça fera de mal à personne. Au contraire, ça nous fera sourire parce qu'en plus il s'agit de Pourim, donc c'est certain que c'est un moment de joie, c'est pour les enfants. Allez, Pourim, donc c'est mardi. Rav David Abendanan, quelles sont les particularités de ce jour?
Alors, la fête de Pourim, c'est une fête qui est en soi extrêmement particulière puisque c'est une fête que nous fêtons pour un miracle qui a eu lieu alors que le peuple juif était en exil. Comme aujourd'hui nous sommes en Galoute, eh bien la fête de Pourim, le miracle a eu lieu pendant les 70 ans qui séparaient le premier Beth Amikdash du second. Donc pendant une période d'exil, c'est une fête qui est très forte puisqu'elle nous montre que même dans les périodes d'exil, HaKadosh Baruch Hu fait des miracles. Et des miracles comme celui de Pourim, ce sont des miracles qui se déroulent sans perturber la nature, ça veut dire des miracles complètement naturels. Et malgré tout, HaKadosh Baruch Hu est là dans le cadre de la nature sans qu'il y ait de perturbation, sans qu'il y ait quoi que ce soit de surnaturel pour nous sauver et nous aider. Le jour de Pourim, il y a 7 mitzvot qui sont rajoutées par nos hachamim. 7 mitzvot, les 4 premières qui sont des mitzvot particulières à Pourim, ça veut dire la mitzvah d'écouter la Megillah deux fois, le soir et le matin. La mitzvah de Mishloach Manot, d'envoyer des cadeaux, des présents, on expliquera ce que c'est. Matanot Laevionim, donner des dons aux pauvres. Mitzvah, ça veut dire que c'est une obligation le jour de Pourim, on expliquera combien à combien de pauvres. Le Mishté, c'est donc une fête de faire un repas festif de Pourim. Et se rajoutent là-dessus 3 mitzvot qui sont un peu plus générales, mais qui vont s'appliquer parce que c'est quand même un jour de fête. C'est la mitzvah d'écouter la Torah, Kriyat HaTorah, une lecture de la Torah particulière. On lit une partie de la paracha de Béchalar le matin pendant la tfila. L'obligation de rajouter à l'anissim dans la Hamida et dans le Birkat Amazon. Et l'interdiction de faire un espède, donc une oraison funèbre, lors de jeûner le jour de Pourim. Ce sont des mitzvot qui sont particulières à ce jour et qui ont été rajoutées par nos chachamim.
Alors, on va parler de la Megillah, évidemment. Et dans la Megillah, moi, j'ai cru apprendre que c'est un peu comme un Sefer Torah. Faut entendre, ou comme un Kiddush, je sais pas. Il faut entendre chaque mot. Alors bon, avec tout le, enfin avec le balagan de Pourim, je vais pas tout entendre.
Alors effectivement, la Megillah, c'est même plus que la mitzvah d'écouter le Sefer Torah, puisqu'il y a une obligation sur la Megillah d'écouter, de lire en fait, mais lire et écouter, ça revient même, chacun des mots de la Megillah de Pourim. Ça veut dire qu'il faut se mettre dans un endroit où les situations permettent d'écouter, donc assez proche de celui qui lit, ou celui qui lit doit lire assez fort pour que tout le monde puisse écouter. Et malgré le balagan qui pourrait y avoir, et j'invite les responsables de communauté à éviter justement que ce balagan n'ait lieu, il faut que chacun puisse écouter chacun des mots de la Megillah. Si jamais il y a des mots qu'on n'a pas écoutés, on n'a pas entendu certains mots dans la Megillah parce qu'il y a eu des bruits qui nous ont empêchés de les écouter, eh bien les phrases qu'on n'a pas écoutées, on ne peut pas les rattraper à la fin, puisque ça voudrait dire qu'on a lu la Megillah en désordre. Et lire la Megillah en désordre, c'est une lecture qui n'est pas valide. Donc il faudrait, pendant la Megillah, rattraper les mots qu'on a ratés pour arriver jusqu'à l'endroit où se trouve le lecteur, et puis se taire et continuer à écouter ce que le lecteur va dire. Donc lire rapidement pour arriver jusque là où le lecteur a lu, même si on a devant nous un chumash qui n'est pas une Megillah kshera, et bien malgré tout, étant donné que ce n'est qu'une petite partie qu'on a lue, bedieved, a posteriori, on est quitte de cette façon. Mais bien entendu, a priori, il faut pouvoir écouter chacun des mots de la Megillah, ce aussi bien le soir que le matin, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et la Megillah étant une mitzvah importante, les Chachamim ne veulent pas que nous fassions un repas important avant la lecture de la Megillah. Donc la Megillah, on l'écoute avant de faire un repas. Le soir de Pourim, on sort du jeûne. C'est la première chose qu'on fait, c'est qu'on écoute la Megillah. Les femmes qui ne peuvent pas aller à la synagogue, elles peuvent manger, boire, mais en aucun cas ne faire motzi avant d'écouter la Megillah ou même consommer de grandes quantités de mezonot avant la Megillah. Et le matin, la Megillah, on l'écoute le matin après la prière de Shacharit. Et là aussi, on ne mange pas, on ne boit pas avant d'écouter la Megillah et d'écouter chacun des mots de la Megillah qui sont lus par un chaliar tibour dans une Megillah qui est une Megillah écrite sur du parchemin avec de l'encre noire comme un Sefer Torah et une Megillah kshera.
Après, on fait des cadeaux. Ça, c'est la partie préférée. D'abord, parce que c'est très joli de voir les enfants courir de maison juive en maison juive avec les paniers. Mais c'est une mitzvah, donc il doit y avoir probablement des règles en dehors du plaisir de faire des cadeaux.
Effectivement, Mishloach Manot, envoyer des cadeaux, ça fait partie des mitzvot, donc des obligations de Pourim. L'obligation étant d'envoyer au minimum un cadeau comportant 2 mets à une personne, idéalement par l'intermédiaire d'un chaliar, d'un envoyé. Alors, ce cadeau qui comporte 2 mets, ça ne doit être que des mets comestibles. Envoyer de l'argent, envoyer des habits ne permet pas d'être quitte de cette mitzvah. De plus, il faut envoyer des mets qui ont une valeur, qui ont une valeur, ça veut dire proportionnelle à celui qui donne et à celui qui reçoit. Quelqu'un qui mettrait un bonbon à une cacahuète, il a envoyé deux choses, eh bien, il n'est pas quitte de la mitzvah de Michel Hartmanot. Il faut envoyer des choses qui ont une valeur, qui permettraient de rapprocher les cœurs, qui permettraient que la personne qui le reçoit comprend que voilà, j'ai fait quelque chose pour lui montrer que je suis proche d'elle. N'oublions pas qu'à Pourim, Aman a misé sur le fait que le peuple juif était mefouzar ou mforad, était un peuple qui était éparpillé, et donc un manque de solidarité, et que nous, la solution que nous avons trouvée, c'était les IKL, de nous rassembler. Donc dans cet état d'esprit de rassemblement, Michel Hartmanot, on voyait un Michel Hartmanot comportant deux mets. Alors on a l'habitude de dire deux brachot, c'est faux, je ne sais pas d'où ça sort, c'est pas forcément deux brachot, ça peut être la même bracha, mais il faut que ce soit deux aliments différents dans un Michel Hartmanot. Alors, on peut envoyer un Michel Hartmanot convenable par rapport à ce que j'ai dit, avec deux mets importants qui montrent à la personne qui l'a reçu un attachement, et après en faire plusieurs autres pour d'autres personnes qui ne répondent pas peut-être aux critères, à tous les critères de la halakha, mais qui seront symboliques dans un état d'esprit justement d'envoyer un maximum de personnes. Mais au moins un Michel Hartmanot convenable par rapport à ce que j'ai dit. Les femmes sont aussi obligées de faire la mitzvah de Michel Hartmanot, les enfants de plus de bar mitzvah aussi obligés de faire la mitzvah de Michel Hartmanot, en sachant qu'une femme envoie une femme et un homme doit envoyer un homme. Celui qui reçoit le Michel Hartmanot doit savoir de qui ça vient. Puisque si je reçois un Michel Hartmanot, un cadeau anonyme, eh bien ça ne participe pas à cet état d'esprit de cohésion du peuple juif, puisque je ne sais pas à qui je dois être reconnaissant. Donc le Michel Hartmanot ne doit pas être anonyme, il doit être notifié par le nom du propriétaire qui a envoyé le Michel Hartmanot, aussi bien pour l'homme qui envoie que pour la femme qui envoie.
Allez, on va finir avec deux mitzvot. On les fait une par une, évidemment. D'abord, faire de la tzedaka. On appelle ça matanot laevyonim, mais en fait, c'est donner aux pauvres, quoi.
Ouais. Alors, la mitzvah de matanot laevyonim, c'est une mitzvah qui consiste à donner aux pauvres pour qu'eux aussi puissent se réjouir le jour de Pourim. Malheureusement, la question qui revient le plus souvent sur cette mitzvah de matanot laevyonim est quel est le minimum à donner pour être quitte de cette mitzvah. Alors, pourquoi je dis malheureusement? Puisque cette question-là ne devrait pas se poser. De la même façon que pour le michté, on ne cherche pas à manger le minimum, pour matanot laevyonim, il ne faut pas chercher à donner le minimum. Si on regarde, malgré tout, dans la halakha, le minimum, ce serait une prouta. Une prouta, ça veut dire une pièce. Ça, c'était à l'époque où, avec une pièce de quelques centimes, on pouvait s'acheter un repas. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le minimum halakhique, c'est de donner au moins de quoi faire un repas. On va dire, je ne sais pas, quelques euros pour pouvoir faire un repas à deux pauvres.
Je crois qu'on dit 8 euros, moi, pour un repas. Mais on peut dire 5. On peut dire 5. Avec 5 euros,
voilà,
on mange quand même.
On peut dire 5 euros, on peut dire le prix d'un ticket restaurant pour donner un repas qui va être quelque chose de correct. Maintenant, il est évident que quelqu'un qui mange régulièrement au restaurant ou qui n'hésite pas à avoir, qui a les moyens de se faire pour lui des repas qui sont plus chers que ça, le jour de Pourim, eh bien, il est cohérent de dire, voilà, je vais donner matanot laevyonim à deux pauvres, donc l'équivalent de deux bons repas qui vont constituer deux michtés. Après, ça c'est pour le père de famille, pour ses enfants, eux, ils peuvent donner le minimum, mais au moins que le père de famille, s'il a les moyens et si pour lui, il se traite de cette façon-là, idéalement, il faut traiter les pauvres de la même façon et donner de quoi faire des repas qui vont être des repas festifs à deux pauvres. Si on ne connaît pas de pauvres, on peut passer par des institutions qui s'engagent à remettre les matanot laevyonim le jour de Pourim à des animes, à des pauvres.
Voilà, donc deux gueuletons, chez Nini ou au Kavod. J'ai bien compris la leçon. Après, on a Michté. Alors, vous disiez qu'il n'y a pas de chiour minimal pour... si, qu'il y a un chiour minimal pour le don. Mais moi, je crois qu'il faut préciser aussi que dans le Michté, contrairement à ce qu'on croit, on dit oui, on a le droit de s'enivrer à fond. Alors oui, mais je ne parle pas à votre place. Mais ce n'est pas non plus l'idée de se vautrer par terre.
Alors, non seulement ce n'est pas l'idée, il est même formellement interdit. Je vais expliquer rapidement. Alors, pour le michté, idéalement, pour être quitte d'après tous les avis, au moins on mange du pain, parce qu'il faut faire une seouda sur du pain, et de la viande, parce que en simra et la bebasar veyaïn, de la viande idéalement, de la viande de béhéma, donc ça veut dire de la viande rouge. Maintenant, concernant le fait de boire, halakhiquement, ce qui est ramené dans tous les poskim, c'est de boire plus qu'à l'accoutumée, mais surtout pas de s'enivrer. Dans la mesure où le jour de Pourim, nous ne sommes dispensés d'aucune des mitzvot. Nous avons des mitzvot supplémentaires, mais pas des mitzvot en moins. Or, quelqu'un qui boit jusqu'à devenir saoul, il est évident que le birkat Amazon qui va suivre, il ne pourra pas le faire, voire même la prière de Harvit qui va suivre, il ne pourra pas la faire, et ça, c'est formellement interdit. Donc le jour de Pourim, on boit un peu plus qu'à l'accoutumée, ça donne cette sensation un petit peu de liberté, ça permet de se réjouir un petit peu plus facilement, mais en aucun cas boire jusqu'à arriver à un niveau où on n'est plus responsable de ses actes, ça c'est formellement interdit d'après la halakha, et ce n'est pas excusable. Quelqu'un qui dira « je n'ai pas fait Birkat Hamazon parce que j'étais complètement saoul », eh bien ce n'est pas une excuse pour ne pas avoir fait Birkat Hamazon, ouais. Ce sera même considéré comme une erreur, c'est contraire à la halakha.
C'est important, ça. Hein. Donc, c'est un peu ce qu'on appelle en français être un peu pompette, quoi.
Hein, voilà.
Un petit verre de plus. Après, c'est abusé. Très rapidement, Rav Bendana, on a promis aux auditeurs qu'on se maintenait toujours à l'idée de 5 minutes une halakha. Mais c'est vrai que là, on en a fait plein d'halakhot, en fait. Se déguiser, c'est une coutume ou c'est, je sais pas, c'est écrit quelque part qu'il faut se déguiser?
Alors, étonnamment, on va dire l'habitude la plus répandue dans le peuple juif qui consiste à se déguiser n'est pas écrite. N'est pas écrite, mais c'est une habitude, donc on la maintient. Et quand on recherche un petit peu dans les poskim modernes, il y a plusieurs raisons qui sont ramenées à cette habitude. Il y en a qui disent qu'en se déguisant, on enlève nos habits habituels et donc du coup, on est tous sur un pied d'égalité puisque les gens ne sont plus habillés dans leurs habits qui correspondent à leur classe sociale. Il y en a qui disent qu'en étant déguisé, eh bien, on est un peu moins inhibé, on est un peu moins retenu pour être Bessimra. Il y en a qui disent qu'en étant déguisé, on fait allusion au fait que Akadosh Baruch Hu lui-même n'était pas visible dans la Megillah, mais il était caché. Toutes ces raisons sont bonnes pour se déguiser, tout en respectant bien entendu les règles de la Tzniout et les règles de la Halakha à ces sujets-là le jour de Pourim. Le jour de Pourim n'autorise en rien un comportement qui ne serait pas validé par la Halakha. La Halakha n'est pas plus cool le jour de Pourim que les autres jours. Bien au contraire, c'est des jours où il faut se renforcer. Le peuple juif a reçu la Torah à nouveau le jour de Pourim, cette fois-ci de plein gré. Donc à nous aussi de nous renforcer le jour de Pourim pour respecter les mitzvot encore plus. Je rapporte juste qu'il est ramené dans la Halakha qu'il est vraiment bien de fixer un moment d'étude le jour de Pourim. Ça veut dire que dans toutes ces mitzvot que nous avons à accomplir, réserver un petit instant pour l'étude de la Torah, parce que c'est un jour où si on ne se bloque pas un moment pour le faire, on risque d'être débordé, on risque de ne pas avoir le temps d'étudier ce jour-là.
Eh bien, on écoute votre cours.
Par exemple.
On va se le partager sur WhatsApp, pourquoi pas. Rav David Abendana, d'ailleurs il est en podcast sur Radio Shalom, en podcast de Kabbalat Shabbat. Rav David Abendana, merci. Sur Radio Shalom, chaque semaine, 5 minutes, une halakha avec vous. On a fait un peu long, mais bon,
pour une mérite. C'est toujours
ça.
Un plaisir,
Bernard. On était un peu pompette, peut-être.
Voilà.
Merci à vous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sur Radio Shalom.
Radio Shalom.